Quand elle a vu tout ce qui est arrivé dans la famille, à son mari, elle a craqué. Elle a craqué émotionnellement et elle a craqué spirituellement. Elle a dit, oh, écoute, au pont, tu en es. Maudit Dieu et meurt. Pour la femme de l'homme le plus intègre qui soit de cette époque, et le plus, c'est fort, quoi. Hein. C'est fort, mais d'un côté, on peut comprendre la déception de cette femme. Parce que quand des choses négatives nous arrivent et qu'il y a un cumul, on commence à se creuser la tête, à réfléchir et dire mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi ? Et toutes sortes de questions viennent. Et on peut aussi se culpabiliser, on peut commencer à avoir peur, on finit par douter parfois même de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et c'est normal que nous soyons tentés de le faire quand ça se produit, parce que l'épreuve en elle-même est une tentation. D'ailleurs, plusieurs traducteurs hésitent entre le mot tentation et le mot épreuve. Ils utilisent souvent l'un pour l'autre. Et c'est pas un hasard. L'épreuve est une tentation, est une vraie tentation. Et le malin, dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il vise essentiellement ? C'est à déstabiliser, voire même détruire notre foi. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Hein? Alors, c'est pour ça que j'ai parlé dans le dernier message du bon combat de la foi. J'ai cité un peu l'exemple d'Abraham, j'en ai même approfondi un peu, les moments hauts et les moments de crise qu'il a eus, et comment il a réagi, et comment sa femme a réagi. Alors ce matin, je voudrais qu'on prie un moment avant d'aborder ces messages, de sorte que nous puissions avoir vraiment, que nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est pas un message que j'ai préparé comme ça dans un tour de main. C'est un peu une réflexion approfondie de ce que l'on peut vivre et ce que nous sommes amenés à vivre quand on passe par là. Je dirais que c'est un message dans lequel je suis impliqué personnellement, qui est un peu une synthèse de ce que j'ai pu comprendre et voir à la lumière des Écritures. Seigneur, nous te prions vraiment, Père, au nom de Jésus, de venir par ton esprit ce matin, animer ta parole, rends-la vivante. Permets-nous de la comprendre, de la réceptionner, de la comprendre, d'en comprendre le bien fondé et surtout de la mettre en pratique. Merci, Seigneur, de venir aussi nous délivrer des fausses perceptions que nous avons. Quand nous passons par là, nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous avons besoin de toi, cher Seigneur. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Alors, vous savez, on n'a pas le seul repère que nous avons quand nous sommes vraiment dans le creuset de l'épreuve, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle est une lumière sur notre sentier. Et parfois, le sentier est escarpé, parfois il est tortueux. Parfois, il est dangereux. Il y a des ravins à droite, à gauche. Et nous avons besoin que nous marchions sur ce sentier qui est étroit. C'est un chemin étroit sur lequel le Seigneur nous a fait marcher. Ce n'est pas le chemin large. Puis là, tout le monde l'emprunte. Mais sur le chemin étroit, on a besoin d'une lumière devant nous, surtout quand il fait très sombre. Et la lampe, la lumière, la parole de Dieu est vraiment une lampe sur notre sentier. Alors, moi, je voudrais ce matin vous donner la lecture d'un passage qui, pour moi, est central, qui, en quelque sorte, est le centre de gravité de la foi. Parce qu'on sait bien que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu, mais la parole de Dieu aussi est très large. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de chapitres dans la parole de Dieu. Certains chapitres de la parole de Dieu nous exhortent dans la foi, d'autres nous secouent. D'autres nous affermissent, d'autres nous éclairent, mais là ce matin je voudrais vous parler vraiment du centre de gravité de la foi. Et j'ai choisi pour ce un texte qui m'a beaucoup parlé, parce qu'on le connaît bien, mais est-ce qu'on en comprend vraiment la portée ? Je voudrais vous introduire dans la lecture de Romains 8 à partir du verset 26. Si vous avez la parole de Dieu sur vous, je vous invite à la prendre. De même aussi, l'Esprit de Dieu, vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander parfois dans nos prières. Mais c'est l'Esprit lui-même qui intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout ? Tout avec lui par grâce. Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu justifie. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Écoutez bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Est-ce que ce serait les tribulations ? Est-ce que ce serait ou encore l'angoisse ? Ou est-ce que ce serait encore la persécution ? Ou bien la faim, le manque de nourriture ? Ou le dénuement, la pauvreté ? Dénuement. Ou le péril, le danger ? Ou même la guerre, l'épée ? Tenant qu'il est écrit « À cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et là, c'est Paul qui parle avec son expérience et son acquis spirituel, son expérience de Dieu, de tout ce qu'il a vécu. Il dit « Car je suis convaincu, je suis persuadé que ni la mort, même pas la mort, ni la vie, quelle qu'elle soit, ni les anges, ni les dominations de ténèbres dans les lieux célestes, ni le présent, quel qu'il soit, ni l'avenir, qu'est-ce qui va nous arriver ? Ni les puissances de ténèbres, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un texte qui est vraiment central, qui est très fort. Si on réfléchit, si on creuse à ce qui est dit là, c'est extrêmement fort. Parce que quand on a été éprouvé, toutes sortes de pensées viennent et l'ennemi ne nous ménagera pas. Où il est, Dieu, en ce moment ? À travers ce que tu vis ? Est-ce qu'il est vraiment avec toi ? Est-ce qu'il est vraiment présent dans ta vie pour que tu vives ça ? Est-ce que vraiment il t'aime s'il permet que tu passes par là ? Est-ce que c'est vraiment ça de l'amour ? Frères et sœurs, quand nous passons dans l'épreuve, quelle qu'elle soit, nous allons être passés au crible dans nos pensées, dans notre positionnement. Et ce texte que je viens de lire, quand même, je dirais qu'il vient casser certaines fausses déductions qu'on pourrait avoir. Paul ici dit très clairement que être éprouvé ne signifie pas qu'on est séparé de Dieu. Ouais, il lui arrive ceci, Dieu n'a plus rien à voir à faire avec lui, Dieu ne l'aime pas. Paul il dit ici, non, quel que soit. On aurait pu la liste qu'il a sortie, on aurait pu la rallonger. Il rajoutait la maladie, ceci, cela. Hein? Mais non. Dieu, Paul est persuadé que toutes choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce serait les tribulations? Est-ce que ce serait l'angoisse? Est-ce que ce serait la mort, l'adénuement, le péril, l'épée, etc.? Non. Ce n'est pas parce que ces choses nous arrivent que Dieu ne nous aime plus, qu'il nous a classés dans un coin en disant, ben non, tu vois, je le laisse tomber. Non. Ici, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est très claire. Dieu est présent dans l'épreuve. L'épreuve ne signifie pas qu'il nous a abandonnés et qu'il ne nous aime plus. Frères et sœurs, si vous avez déduit ça à un moment ou à un autre, vous faites fausse route, vous êtes en train de donner du crédit au malin. Et vous discréditez la parole de Dieu. La parole de Dieu est trop claire là-dessus. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. Il ne va pas nous dire des bêtises. Il ne va pas nous donner des fausses théologies. Parce que comment veut-on avoir la foi que Dieu va nous tirer d'affaire dans une épreuve si on ne croit pas qu'il nous aime? Expliquez-moi. Comment est-ce que c'est possible? À partir du moment où vous coupez de l'assurance que Dieu vous aime malgré tout, vous ne pouvez plus avoir la foi ni d'espérance. Je suis désolé. Il faut être cohérent, il faut être logique. Et là, donc, Paul y touche vraiment l'épicentre de la foi, hein, c'est que ne perdons jamais l'assurance que Dieu n'est plus là ou qu'il ne s'intéresse plus à nous parce que nous passons dans l'épreuve, qu'il ne nous aime pas. S'il nous aimait, il nous aurait évité telle épreuve. S'il nous aimait, il sortirait plus rapidement de cette épreuve. C'est pas vrai. Quand vous suivez l'histoire des principaux personnages bibliques, que ce soit Abraham, que ce soit David, que ce soit Paul, vous allez voir que ce soit Joseph, ils auraient pu penser 10 fois que Dieu les a lâchés à travers tout ce qui leur est arrivé. Vous pouvez le penser légitimement. Paul particulièrement, il a bien été servi, lui. Il a eu une forte dose. À tous les niveaux, il a eu tout le type d'épreuve que vous voulez avoir. Il a été mis en péril à droite à gauche. Il a failli mourir. Il a été lapidé. Il a été lâché par des faux frères, etc. Il les a toutes vues. Hein? Et c'est qui mieux que lui peut parler de ça? Il dit, non, c'est pas vrai, Dieu ne m'a. C'est pas parce que cela m'est arrivé que Dieu ne m'aimait pas. Mais on vit sur terre. Et pour l'instant, c'est le malin qui règne sur terre dans la majorité des situations. Le Seigneur ne peut régner que avec ceux qui l'ont accepté et qui renversent le cours des choses, qui renversent les situations. Et même Jésus hein, et ses parents, ben, toute l'enfance de Jésus, il l'a passée, une partie de son enfance, il l'a passée en Égypte, dans un peuple qui ne connaissait pas la langue, avec des mœurs, et il n'avait pas la même foi que les Juifs, hein, les Égyptiens. Hein, ils adoraient des idoles et des faux dieux, et j'en passe. Joseph, Marie et Jésus, dans ce contexte-là, ça ne devait pas être évident. Et quand il est revenu, ce n'était pas mieux. Au milieu des siens, quand il a vu le contexte dans lequel les siens baignaient, sous l'oppression romaine, et puis comment ils en bavaient, et comment eux, ils ont dû aussi faire face à ce genre de situation. C'était pas simple. Et Jésus, quand il a commencé son ministère, tous les siens se sont retournés contre lui. Ils ont même voulu le raisonner, qu'il arrête, quoi. Sa famille est venue le reprendre. Sa mère et ses frères et ses sœurs sont venus lui dire, mais ça va, t'es devenu fou, qu'est-ce qui t'arrive? Puis même la première fois qu'il a sorti le premier discours dans la synagogue, on a voulu le jeter en bas de la colline, hein, de l'escarpement, parce qu'on disait, il est devenu fou, il blasphème. Et jusqu'à la fin, ça a été le combat. Et le plus dur, ça a été la fin pour lui. Et il a vécu cela en restant ferme dans la foi par rapport à son père. Frères et sœurs, Moi, je trouve que ce texte est très clair. Une première déduction qu'on vient de sortir de ce texte, c'est que jamais, jamais, quoi que tu vives, ne peut servir de base à la déduction que Dieu ne t'aime pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu t'aime. Il permet que tu passes par là, on va voir. Alors, deuxième grande vérité qui ressort de ce texte, c'est que non seulement Dieu ne nous a pas abandonnés quand nous sommes dans l'épreuve, mais il nous a donné les deux meilleurs intercesseurs que nous puissions avoir au monde, de toute évidence. Nous avons lu tout à l'heure que, à propos de Jésus-Christ, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite du Dieu et il intercède pour nous. Premier grand intercesseur, Jésus, il ne vous lâchera jamais, ce sera toujours le meilleur avocat pour vous. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu dans le désert, avec Moïse. Moïse part sur la montagne et pendant ce temps, ne le voyant plus revenir, ils se sont dit, ben ça y est, il a dû lui arriver un accident, il s'est passé quelque chose de grave, il ne redescend plus. Venez, retournons vers nos dieux d'Égypte, au moins cela on les connaissait, et même sous l'instigation d'Aaron, avec l'appui, je dirais, le concours d'Aaron, ils ont construit un veau en or. Quand Moïse est descendu et qu'il a vu ça, il a cassé les tables de pierre et il était scandalisé. Il est tout de suite remonté prier et dit non, là c'est fini quoi, c'est fini, cette histoire s'arrête maintenant. Je croyais que Dieu allait faire quelque chose pour ce peuple, mais il n'y a plus rien à faire. Ce peuple est irrévocablement pervers, tourné toujours vers les idoles, les choses anciennes, etc. On ne peut rien faire avec eux. Et il s'est mis à intercéder. Il a été un avocat incroyable et il a changé la vie de Dieu. Dieu avait prévu de les détruire réellement parce qu'il lui a dit écoute, va là-bas, je te bénirai ta famille. Moïse a dit non, si tu viens pas avec nous, moi je n'irai pas. Si toi tu n'es pas au milieu de nous, je n'y vais pas. Frères et sœurs, si Moïse, qui n'était pas le Fils de Dieu, a été un intercesseur aussi puissant, aussi capable de changer le cours des choses et de changer le jugement de Dieu sur ce peuple, que pensez-vous que Jésus, que pensez-vous à propos de Jésus ? Pensez qu'il est un moins bon avocat que Moïse ? Un moins bon intercesseur que Moïse ? Moi, je pense qu'il est infiniment supérieur à Moïse en tant qu'intercesseur. Et quand Jésus se met à intercéder pour toi, mon ami, mon frère, ma sœur, oulala, quelle puissance, quelle valeur à son intercession. Est-ce que tu réalises que tu as l'intercesseur le plus puissant ? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un serviteur de Dieu, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Bien que tout cela puisse être intercesseur, ce n'est pas une église, bien que l'église puisse intercéder, le meilleur intercesseur que tu as auprès du Père, c'est Jésus, celui qui t'a sauvé, celui qui a donné son sang pour toi. Il va intercéder à fond, il n'arrêtera pas d'intercéder nuit et jour. Qu'est-ce qu'il demande ? Ça, on va le voir après. Qu'est-ce qu'il demande donc à Dieu ? Quand tu passes par là, c'est intéressant de savoir ce qu'il demande. Comment est-ce qu'il prie ? Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que nous n'avons pas seulement un intercesseur là-haut, auprès du Père, mais que nous en avons un deuxième aussi puissant qui est ici-bas. C'est qui ? Chut ! Trop. Non, mais attends, c'est trop facile, elle connaît. Mais relisons le texte, frères et sœurs. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, verset 26, car souvent quand on est dans le combat, dans l'épreuve, on ne sait plus quoi demander, ou bien au bout d'un moment quand on a prié tout ce qu'on pouvait, ce qu'on savait, frères et sœurs, eh bien, on arrive au point où on ne sait plus comment prier. Quelqu'un a déjà vécu ça ici ? Ouais, Damien, tu vois, bon, voilà un homme honnête. Parfois, on ne sait plus comment prier. Parfois, moi-même, en tant que pasteur, je ne sais plus comment prier, bien que je sois pasteur et serviteur de Dieu. Et c'est ça qui est, là, ce qui est intéressant. Mais l'Esprit lui-même, il prend le relais. Il intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On a, frères et sœurs, un deuxième intercesseur. Il est où ? Il est là-dedans. Là-dedans. Il est dans ton corps, dans ton être. Le Saint-Esprit, le deuxième intercesseur qui intercède pour toi. Et il intercède comment ? Alors, la particularité de Saint-Esprit, c'est qu'il est lié à toi. Le jour où tu as été baptisé, Saint-Esprit s'est saisi de ton esprit, de ta langue. Et voilà qu'il attend que tu commences à prier en langue pour intercéder. Parce que quand nous prions en langue, nous prions selon l'esprit, par l'esprit, nous dit l'apôtre Paul, nous l'explique en long et en large, dans 1 Corinthiens 14. Autrement dit, l'intercession du Saint-Esprit s'arrête quand tu parles en langue, quand tu ne parles plus en langue, et elle recommence quand tu reparles en langue. Contrairement à celle de Jésus qui est permanente, à droite du Père. Le deuxième, lui, il travaille en relais avec toi. Ça, c'est très important de le saisir, frère et sœur. Et alors, quand on ne sait plus comment prier, tu pries en esprit, combien de temps jusqu'à quand ? Tu pries en esprit, tu pries en langue, continuellement, jusqu'à ce que la paix surnaturelle de Dieu t'envahisse et que tu aies le témoignage intérieur que c'est bon, que c'est acquis. Avant, il ne faut pas s'arrêter. Ça ne veut pas dire que tu pries toute la journée en langue, mais ça veut dire que dès que tu peux, tu le fais. Et quand tu as plus de temps, tu le fais. Et ça, c'est valable quand tu ne sais plus comment prier avec ton intelligence. Parce que nous pouvons prier avec notre intelligence. Souvent, nous nous croyons vachement inspirés. Quand nous prions de l'intelligence, nous avons l'impression que vous avez fait la bonne prière. Peut-être. Mais si rien ne change dans les temps qui suivent, eh ben, c'est que ton intelligence a une vue un peu courte. Frère et sœur, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin de toi pour intercéder en ta faveur par des soupirs inexprimables. Certaines traductions le rendent autrement. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'il prie, le Saint-Esprit et Jésus, nos deux intercesseurs, un en haut, un en bas, qu'est-ce qu'il prie ? Ah, si je savais tout ce qu'il prie, je vous le dirais. Maintenant, il y a des très grandes chances qu'il prie de la façon suivante si je me base sur le texte que je viens d'avoir. Certainement qu'il prie que nous sortions plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, que nous sortions de nos épreuves, puisque Paul le dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui intercède pour nous. Il veut nous rendre plus que vainqueurs. Il prie que nous ne nous éloignions pas de l'amour de Dieu. Que nous soyons assurés aussi qu'il nous aime. Parce qu'il y a un combat dans notre tête. Est-ce que Dieu m'aime vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure ? Puisque cela continue et ne diminue pas. Est-ce que Dieu s'intéresse réellement à moi ? Est-ce qu'il s'intéresse réellement à ma famille ? Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à mon couple ? Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à ce que je fais ? le Seigneur et le Saint-Esprit prient pour que tu crois qu'ils s'intéressent à toi réellement et qu'ils ne t'ont pas laissé tomber. Même si les choses apparemment ne bougent pas comme tu le voudrais. Très important, frères et sœurs, que nous, ils prient que nous ne changions pas d'attitude à l'égard de Dieu. Que nous ne changions pas d'attitude, que nous ne doutions pas, ne faisions pas des déductions fausses de ce qui nous arrive. Et que nous restions centrés sur ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Il prie pour que les deux prient, le Jésus et le Saint-Esprit prient pour que nous ne soyons pas déstabilisés ni démolis par ce qui nous arrive. Mais que nous allions de plus en plus devenir inébranlables. Présor. Et conformément à ce qui est dit dans ce texte, que nous devions de plus en plus semblables à Jésus-Christ. C'est un passage. Vous vous souvenez du verset que nous avons lu tout à l'heure dans le passage. Hein? Ça, c'est les sujets d'intercession du Fils de Dieu et de l'Esprit. Alors peut-être qu'il prie aussi pour que les choses, aboutissent, que nous trouvions une issue. Certainement. Mais ça, c'est énormément en rapport avec notre foi. Nos confessions de foi ou nos confessions de doute sont le matériau qu'ils peuvent apporter au Père. Si nous parlons tout le temps des paroles négatives, ils n'ont aucun matériau à apporter au Père de notre part. Mais si nous parlons des paroles de foi, ils prennent ces paroles et les apportent au Père. Il est dit dans Hébreux qu'il est souvent sacrificateur de la foi que nous confessons. Hébreux 3. Jésus est le souverain sacrificateur de la foi que nous proclamons, que nous confessons avec nos bouches. Autrement dit, ce que nous prononçons a une énorme valeur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, soit négativement, soit positivement. Donc, il est très important d'être très attentif à ce que nous disons dans nos épreuves. Parce que l'ennemi, lui aussi, va prendre nos paroles négatives. Lui, il est médiateur d'une autre alliance, de destruction, de mort. Et vous pouvez aussi, quand vous confessez des choses avec votre bouche, vous pouvez aussi lui apporter des matériaux. Car il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Après ça, faisons très attention à ce que nous disons. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas réaliser en cet instant qu'il va falloir que tu te repentes de certaines choses que tu as dites et demander même pardon si tes proches l'ont entendu. Frères et sœurs, faisons très 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 attention, très très attention dans ce domaine. Alors, en fonction de ce que nous venons de comprendre, il va falloir apprendre, c'est là les quatre choses essentielles, fondamentales dans notre vie. Première chose qu'il faut réapprendre, c'est réapprendre à vivre le présent avec Jésus et le Saint-Esprit. Quand nous souffrons dans l'épreuve, c'est absolument central. L'apôtre Paul a dit quelque chose qui m'a toujours beaucoup encouragé et qui est vraiment une de ses confessions les plus fortes. Il a dit ceci. Il était dans le besoin à ce moment-là quand il l'a dit. Je ne dis pas, c'est dans Philippiens 4:11. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, parce que on lui avait envoyé une offrande alors qu'il était dans le besoin. Il dit, je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris, écoutez bien, à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. C'est dans ce contexte-là qu'il est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ne sortons jamais un verset de son contexte. C'est dans ce contexte précis qu'il dit ça « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça veut dire que, quelle que soit la situation par laquelle il passait, il avait appris à être content. La situation, si c'était sur les hauts sommets, s'en réjouissait. Quand il était au bas de la vallée, au creux de la vallée, il était aussi inébranlable, certain que Dieu l'aimait, que quand il était sur le sommet. Il avait appris à ne pas dépendre de ce qu'il voyait autour de lui, de ce qui se passait autour de lui. Il avait appris à apprendre à ne pas dépendre de ses propres émotions. Parce que ses propres sentiments, parce que quand nous sommes agités par l'épreuve, parfois on est comme dans une lessiveuse, nous sommes dans tous les sens, et il avait appris à rester stable dans ses émotions, parce que il avait appris à vivre Christ, que ce soit dans la disette comme dans l'abondance, que ce soit dans les épreuves, comme quand il n'y avait pas d'épreuves. Il avait appris à faire de Christ son centre de gravité émotionnelle. Il avait appris à vivre la communion avec Dieu, quels que soient les moments difficiles ou faciles qu'il passait. Vous savez, le présent, quel qu'il soit, peut être stérile ou fécond. Suivant la façon dont il a vécu, suivant notre disposition de cœur. Ce qui est le plus important, c'est la façon dont nous vivons les choses. C'est notre disposition de cœur. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas que ce que nous vivons, des choses difficiles ou bonnes ou mauvaises, c'est notre disposition de cœur. Quelle est-elle? On va vivre la désolation, l'enfermement ou la plénitude suivant l'état d'esprit que nous avons quand nous vivons le présent. Le présent, c'est pas lui qui doit déterminer notre état d'esprit. C'est notre état de cœur dans le présent. Vous savez, quand le présent est trop difficile, on a tendance à fuir dans quelque chose. Certains fuient dans le sport, d'autres dans des choses moins nobles. La fuite vers des choses irréelles. La fuite vers le futur. La fuite dans le passé aussi. Je vis dans le passé. Et je ne vis pas le présent. Parce que le présent est trop difficile. Alors j'essaie de trouver une compensation, je fais un rattrapage. Mais frères et sœurs, ça c'est de la survie, ce n'est pas la vie. Si je vis Christ dans le présent, je vais rester aimable. Je vais rester plein de bonté, de patience, malgré ce que je vis. Si je me laisse emporter par ma chair, si je ne suis pas centré sur Christ à ce moment-là, je vais devenir irritable, difficile à vivre, indigeste, une véritable épreuve pour les autres. Frères et sœurs, c'est la vérité. La vérité. C'est comme ça que ça se passe. Tout dépend sur quoi je fixe mes regards et ce que je crois dans ces moments-là. Parce que le but de Dieu, c'est que nous ressemblions à Christ. Il permet l'épreuve pour que nous progressions en Christ. Ça veut dire que nous devions être plus semblables à lui. Si je décidais que le présent, le moment présent, je le passe pour aimer davantage, quelle que soit la situation que je traverse, je décide d'aimer davantage mon frère, ma soeur, mon mari, mon épouse, mes enfants, les autres. Là, Dieu va être fier de nous. Là, Dieu va être très fier de nous. Il suit les pas de mon fils bien-aimé. Il grandit dans la ressemblance de Christ. Quelle merveille. Les tests de l'épreuve est en train de bien se passer. Et le père dit à son fils qui intercède, dis donc, tu intercèdes bien, et je vois qu'il est vraiment en train de changer. Il a vraiment saisi. Il est en train vraiment d'évoluer dans cette épreuve. Je vois de plus en plus qu'il commence à te ressembler, fils. Jésus dit, oui, tu as raison, père. Moi aussi, je le vois. Ça m'encourage à encore intercéder plus pour lui. Souvenez-vous de l'histoire de l'écharde dans la chair. Vous connaissez cette histoire, aussi bien on l'a souvent parlé. Hein. Quand Paul a supplié à 3 reprises Dieu de lui retirer cette écharpe dans la chair, chaque fois il a prié avec son intelligence, il n'a pas prié en langue cette fois-ci, il a prié avec son intelligence et il a dit: j'en ai marre, je n'en peux plus, ôte-moi cette écharpe. Alors c'est le terme grec pour le mot écharpe dans la chair, chair, ici c'est pas soma, le corps, mais c'est sarx. Sarx qui est la nature humaine. Alors, certains commentateurs pensent que c'est quand même qu'il était malade dans son corps et qu'il n'en pouvait plus par moment dire c'est le service dans cet état-là. D'autres disent, ben non, sarx, c'est pas le soma, c'est son être naturel. Donc, l'épine, c'est quelqu'un qui vraiment tout le temps le persécutait, il en faisait voir toutes les couleurs. Paul n'en pouvait plus, il dit: Seigneur, délivre-moi de ce type-là, hein, j'en peux plus, je craque. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans la partie physique ou dans la partie relationnelle, il est ici parlé d'un ange qui le souffletait. C'est-à-dire Satan utilisait cette situation pour le gifler, pour l'humilier. Chaque fois qu'il ouvrait le bec, eh bien, cet ange des ténèbres venait lui clouer le bec. En disant: regarde-toi d'abord avant de... etc. Regarde, etc. Et Paul était très humilié, il n'en pouvait plus, et il a demandé donc à ce que Dieu lui retire cette écharpe, et vous savez que Dieu lui a dit: ma grâce te suffit. Ha! Alors, quelle que soit l'écharpe que tu vis, Dieu te dit, à travers la bouche de Paul, que la grâce qu'il t'a donnée est suffisante pour la vivre. Et quand on sait que Paul dit dans Éphésiens, je crois que c'est dans Éphésiens 4, 7, que la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ, ça veut dire entièrement, Dieu n'y a rien retenu dans sa grâce, il veut la donner toute. Ça veut dire que tu peux tout traverser par la grâce de Dieu, par sa grâce. Et pour ça, il faut rester dans la grâce. Et que faut-il faire pour rester dans la grâce? Eh bien, je vais vous lire un verset qui est vraiment très intéressant, frères et sœurs, et qui clarifie bien les choses. C'est Pierre qui le dit dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, verset 2. Il commence son épître ainsi, il dit: que la grâce et la paix vous soient multipliées, pas additionnées, mais multipliées. Par quoi? Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Ça veut dire que plus tu vas progresser dans la connaissance de Dieu, plus tu vas faire plus ça devient réellement ton sujet numéro un, progresser dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, eh bien, le résultat de cette recherche approfondie mieux connaître Dieu, c'est la multiplication de la grâce. Il y a deux choses qui multiplient la grâce. Il y a la recherche de Dieu. Et aussi, comme le dit le psaume 32:10, celui qui se confie dans l'Éternel est environné de sa grâce. Alors, plus on apprend à mieux connaître Dieu, plus il sera plus facile de se confier en lui. Je pense que si Moïse a intercédé de cette façon-là auprès de Dieu pour le peuple d'Israël, c'est qu'il connaissait bien Dieu. Il savait qu'il était lent à colère, miséricordieux, riche en bonté, de compassion. C'est ce qui s'est passé le jour où Dieu s'est révélé dans sa gloire à Moïse. Moïse, ce jour-là, ça a été quand même une leçon qui est venue dans sa vie, c'est que il a vu qui était Dieu, comment il était. Et parce qu'il savait que Dieu était comme ça, alors il se pouvait se permettre d'intercéder jusqu'à ce que Dieu craque. il reste conforme à sa nature, bien qu'il ait des intentions contraires. C'est pour ça, les gens qui veulent être des prophètes ou des intercesseurs, si vous n'avez pas cette attitude-là, vous n'êtes pas des bons intercesseurs. Oh Seigneur, comme Jacques et Pierre, que la foudre descende sur ce village, t'as vu, ils ne t'ont même pas reçu. Vous n'avez pas parlé de quel esprit, vous êtes animé. Alors que Israël, qui avait fait la grosse gaffe de tourner le dos à Dieu et d'adorer un veau qui s'était fabriqué eux-mêmes, la colère de Dieu, c'était vraiment... Là, c'était la foudre de Dieu qui allait tomber, c'est sûr. C'est pas Moïse qui a dit que ta foudre descende sur eux. Non, non, il pardonnait, Seigneur. Que diront les nations s'ils voient que tu les amènes dans le désert, te faire sortir d'Égypte pour en rester là et t'éliminer dans le désert? Elles vont rigoler. Et il a plaidé pendant 40 jours. Waouh! Sans manger ni boire. Il a failli de quoi mourir 10 fois. Hein. Mais il l'a fait et Jésus est un meilleur intercesseur que Moïse. Et l'Esprit Saint est un meilleur intercesseur que Moïse. Alors vous ne pouvez pas mieux le connaître si vous ne lisez pas les Écritures. Hein, parce que dans les Écritures, il nous est dit quelque chose de très important. Tout ce qui a été écrit d'avance dans les Écritures, c'est Paul qui le dit dans Romains 15, 4, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Qu'est-ce qu'elles apportent, les Écritures? La patience et la consolation. La persévérance et la consolation. Moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je ne vous ai plus vu? J'ai cherché et cherché dans les Écritures ma consolation, ma force, mon encouragement à persévérer. Et j'ai cherché Dieu à travers cela et à mieux connaître Dieu. Que dit-il? Parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un sans savoir ce qu'il dit. À travers tout ce qu'il dit, j'apprends à mieux le connaître. Qu'est-ce qu'il dit sur ce sujet-là, Dieu? Qu'est-ce qu'il dit sur ce sujet-là? Et quand ça se passe comme ça, que dit-il? Et c'est ça qui est important, c'est de chercher Dieu dans sa parole et de le chercher dans la prière par l'Esprit et de le chercher à l'Église par les ministères. Dieu a donné les ministères, 5 ministères pour équiper les saints. Me dit Paul dans Éphésiens 4:11. La fréquentation de la parole, la fréquentation de notre culte personnel dans la prière, la fréquentation de l'Église, l'apport des ministères, l'apport du Saint-Esprit, tout ça c'est tellement important pour apprendre à connaître Dieu. Alors vous avez compris que Paul, quand il a eu cette écharde et que Dieu lui a dit non, je ne vais pas la retirer, ça a été quand même en même temps un choc. Ça a été un choc pour Paul. Parce que Dieu lui a dit non. Je ne veux pas la retirer. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu te dit non? Et qu'il te dit ma grâce te suffit. Ça, c'est un vrai test, frères et sœurs. C'est un vrai test, c'est le test de la seigneurie de Christ dans notre vie. Le test de la seigneurie de Dieu dans notre vie. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané, et qu'il a dit, oh, s'il était possible d'échapper à ce qui m'attend, Père, retire-moi s'il te plaît cette coupe. Il était sué des grumeaux de sang, tellement il avait peur, parce qu'il savait ce qu'il allait devoir passer. Toutefois, oh, que ta volonté, non pas ma volonté, mais sa volonté à Jésus, c'était d'échapper à cette épreuve qui allait lui arriver, qui était l'épreuve la plus terrible. Mais il s'est soumis à la seigneurie de son père parce qu'il savait que son père aurait pu l'exaucer, mais il sortait du plan de Dieu à ce moment-là. Le test de la seigneurie, frères et sœurs, de Dieu dans notre vie, c'est un texte vraiment redoutable. Quand Dieu ne te donne pas ce que tu as demandé, quand Dieu, s'il te plaît, ferme-le entièrement, oui. Quand Dieu ne te donne pas ce qu'il t'a demandé, et qu'il dit ma grâce me suffit, comment est-ce que tu réagis? Frères et sœurs, c'est important de répondre à ces questions aussi au fond de nous-mêmes, hein, parce qu'un jour ou l'autre nous serons confrontés à ce genre de choses. Vous croyez que c'est Abraham, quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, il a rigolé? C'était vraiment le test de la souveraineté de Dieu, le test de la seigneurie de Dieu sur sa vie. Tu me l'as donné, tu veux le reprendre, bon. Ok. Dieu a vu qu'il restait son Seigneur, même s'il lui retirait son fils. Waouh! C'est pour ça que Abraham a été appelé le père des croyants, parce qu'il a passé le test de la seigneurie. Il est resté dans la foi, malgré ce que Dieu lui demandait de difficile. Paul est resté dans la foi, dans la communion avec Dieu, malgré le fait que Dieu ne lui montait pas cette écharde. Frères et sœurs, vous n'entendrez pas souvent ce type de message quand vous irez dans des églises ou dans des conventions, et pourtant, c'est la vérité de la parole de Dieu que je vous enseigne ce matin. Je suis un peu désolé que beaucoup ne soient pas là ce matin pour entendre ça, mais si vous pensez que ce que je dis est important, vous pouvez toujours acheter la cassette ou le CD. Hein. Alors, je vais terminer là-dessus. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien dans la vie chrétienne charismatique, dans le milieu évangélique, c'est la conduite de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui conduit notre vie ou est-ce que c'est nous qui la conduisons ? Puisqu'il est le Seigneur, c'est lui qui la conduit. Oui, si tu lui donnes la conduite. Mais en réalité, Dieu veut nous conduire, mais ce n'est pas lui qui veut prendre le volant de notre vie. C'est à nous de le prendre, frère et sœur. C'est à nous de prendre le volant de notre vie. C'est nous qui devons décider librement, sans contrainte, dans quelle voie nous voulons aller. Quels sont les choix que nous voulons faire ? Dieu nous laisse absolument libres, frères et sœurs, de choisir et décider. Bien sûr, nous pouvons décider de choisir les voies de Dieu, c'est-à-dire la droiture, la loyauté, la fidélité, l'amour, la justice, etc. Tout ce que nous savons de lui. Mais ce n'est pas Dieu qui va le décider à notre place. C'est nous qui décidons d'orienter notre voiture sur ce chemin-là, plutôt que sur un autre. Ce n'est pas Dieu qui va le faire à notre place. C'est nous. Dieu veut nous apprendre à prendre nos responsabilités en main. Souvenez-vous de l'histoire du roi Saül. Quand le prophète l'a rencontré avec ses ânesses, alors qu'il cherchait ses ânesses, et qu'il a prophétisé sur lui, il lui a dit « Ceci, cela va t'arriver, cela va t'arriver, cela va t'arriver. » Sa belle parole de Dieu prophétique. Paf, paf, paf. Effectivement, ces choses-là sont arrivées. Mais ensuite, Samuel lui a dit « Et puis ensuite, fais ce qui te semble bon. » Vous pouvez retrouver le texte dans le livre de Samuel. Fais ce qui te semble bon. Ça veut dire qu'il était libre de prendre toute l'initiative qu'il voulait. Malheureusement, il n'a pas attendu le prophète Samuel comme Samuel lui avait dit « Attends-moi avant de sacrifier, que je vienne sacrifier avant de décider quoi que ce soit quand tu seras encerclé. » Et lui, sous la pression, il a craqué. Il n'a pas attendu. La seule chose que Dieu lui demandait, c'est de l'attendre, d'attendre Samuel. Il ne l'a pas fait. C'était sa responsabilité. C'était son choix. Parfois, il faut assumer les conséquences de nos choix. Ce n'est pas Dieu qui a pris certaines décisions, qui a fait un choix chez nous. À nous de les assumer. Et parfois, nous faisons des choix insensés, frères et sœurs. Passage. Et quand nous avons fait ces choix passage et qu'il nous arrive toutes les misères, après, on peut se dire, ben voilà, les carottes sont cuites, quoi. Qu'est-ce que Dieu veut encore faire si je me suis mis dans ce bourbier en suivant des voies tordues ? Frères et sœurs, ces épreuves que j'ai, je les mérite, puisque c'est le résultat de mes choix insensés. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Je voudrais terminer là-dessus. J'aimerais que vous lisiez avec moi le psaume 107. Ce psaume parle de ceux que Dieu a rachetés de la main de l'adversaire. Il est dit, certains habitaient, verset 10, dans les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Donc c'est clair, ils connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient les conseils de Dieu, mais ils ont fait le contraire. Dieu humilia leur cœur par la peine. Ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, cependant, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les ports de bronze, il a rompu les verrous de fer. D'autres insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leur bouche avait en horreur toute nourriture et touchait aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et il les délivra de leurs infections. Et il les délivra de leurs infections. Qu'il célèbre donc l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Et qu'il offre des sacrifices de reconnaissance. Et qu'il redit ses œuvres avec des cris de joie. Puis d'autres aussi qui voyageaient sur la mer dans des navires, qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, eh bien, se sont aventurés alors qu'il y avait des tempêtes prévisibles. Et ils se disaient, on est perdus. Là aussi, ils crièrent à l'Éternel, et Dieu les secourut. Frères et sœurs, l'Éternel est plein de compassion pour ceux qui le craignent. Dieu n'est pas sourd aux cris, même quand nous sommes responsables nous-mêmes des malheurs qui nous arrivent ou que nous avons incité Dieu à nous mettre dans des situations, dans des fers, comme disent les Écritures ici. Lorsque nous nous humilions sous la main de Dieu, que nous nous repentons et que nous crions à lui, il écoute nos cris. Il écoute nos cris. Pourquoi ? Parce que qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Serait-ce le péril ? L'angoisse, la tribulation, l'épée, la faim, etc., etc. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. J'aimerais que tu sortes de ce lieu convaincu que croire ce que soit que tu vives, Dieu est pour toi. Même si les choses ne bougent pas, Dieu est pour toi. Il t'aime. Il veut que tu restes ferme dans ton assurance, qu'il t'aime. Il veut que tu le crois de tout ton cœur, afin que tu deviennes plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Comment, si Dieu t'a donné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose, ça comprend tout avec lui, par grâce. Mais ce sera seulement le produit de sa grâce. Si tu restes dans la grâce de Dieu, si tu multiplies la grâce par la connaissance de Dieu, que la grâce te soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, du Père et de Jésus-Christ. Celui qui se confie dans l'Éternel est environné de sa grâce. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il prend soin de vous, même si ça ne se voit pas comment il le fait. Prions.